Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
Un autre! Denis Gravel qui apparaît en studio, tout comme le soleil dans le secteur Le Bourgneuf. Dans les prochaines minutes, les prochaines heures, on nous parle de nuages qui devraient arriver sur la capitale nationale. 40% de probabilité d'averse cet après-midi, maximum de 21. Ce soir, cette nuit, des nuages avec des probabilités d'averse à 60%, minimum de 13 degrés. Demain, vendredi, généralement nuageux, avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 19. 418-971-1021. Qu'est-ce qui se passe sur la route par texto, les amis? Merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Vous êtes efficaces en plus parce qu'on a reçu des indications comme quoi sur le pont Pierre-Laporte, direction sud, il y a des débris dans la voie de droite et la voie centrale. C'est quoi le débris? Des morceaux de pneus. On espère que tout le monde est correct, mais ça fait en sorte que tout le monde ne sera pas à l'heure où il se rendait. Refoulement, mesdames et messieurs.
Ouais, c'est comme des jantes qui se retrouvent sur le dessus des pneus de camion. Puis quand ça chauffe, là, ça débarque. Si tu vas à Montréal, là, t'en vois souvent sur la 20, là, aux abords de la route. Là.
La première couche de pneus qui arrache?
Oui, peut-être que les camionneurs seraient plus en mesure de nous dire exactement c'est quoi, là, mais c'est vraiment la jante qui est au-dessus du pneu là, qu'on a posé. Parce que ça, des fois, il y a des pneus réchappés là-dedans. Là, puis c'est une jante qui décolle.
Fait que tu veux pas rouler là-dessus. Là.
Ben, ça scrape ton genre. Puis si tu la, une fois que t'as pilé dessus, puis elle revole dans les airs, là, si tu le reçois d'en face, c'est pas nécessairement super cool pour toi et ton genre.
Tu deviens toi-même un problème de circulation.
Exact. All right. Salut, Denis Gravel.
Bonjour.
J'aurais voulu que tu sois hawaïenne avec cette belle chemise. Wow!
Les paniers,
ben écoute, on est rendu à 3 journées de beau temps, une en arrière de l'autre. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il en reste 7 des belles journées pour l'été à peu près. Là. Fait que...
On me dit que c'est des pneus recap.
Ouais,
c'est
okay.
Ça.
Ouais.
Que, exact. OK, Lou. Je regardais tantôt un article qui a été fait sur la bouchée généreuse,
oui.
Qui est un organisme qu'on aime bien. On a contribué avec la gang de la NSPW à donner de l'argent pour les gens qui visitent la bouchée généreuse. On avait ramassé quoi avec la NSPW? 23 000 piastres à peu près, total tout. Là.
Qui devenait 60 000 parce que...
Parce que quand ils magasinent au Costco, c'est du 3 pour 1.
Ils ont des rabais des ententes.
Exact. Fait que s'il y a pour 75 000 piastres de stock, ils payent juste 25 000. Fait que c'était beaucoup d'argent. Puis, fait qu'à chaque fois que la bouchée généreuse passe dans l'actualité, on dirait que je suis un peu plus alerte. Puis c'est encore le cas ce matin. Denis, dans la grande région de Québec, là, on considère qu'en 6 mois, l'aide alimentaire a augmenté de 45%. Donc, faisons un chiffron, là, 50% d'augmentation en 6 mois.
C'est l'enfer, hein? C'est l'enfer, puis c'est les gens de la bouchée généreuse, je pense, qui font la réflexion dans l'article que tu fais mention sur le site de Radio-Canada. Le visage de la pauvreté a changé. T'sais, maintenant, c'est des gens qui ont des emplois qui vont faire la file, sont au salaire minimum ou un petit peu plus haut, puis ils arrivent juste plus. Donc, c'est une nouvelle clientèle de pauvreté qui s'ajoute à celle qu'il y avait déjà. Parce qu'on dirait que la pauvreté gagne un étage supplémentaire au niveau de gens qui, oui, ont un emploi, oui, ont de quoi se loger, mais ils n'ont plus une scène, eux autres non plus. Là. C'est énormément de gens, puis il faut continuer de... Ceux qui peuvent, évidemment, il faut continuer de donner puis d'essayer de prêter main forte à ces organismes-là qui sont nombreux dans la région de Québec. Je ne savais pas qu'il y en avait autant.
Ouais.
Et ils ont tous exactement la même augmentation de besoins.
Ouais. Ils sont très, très discrets. La Société Saint-Vincent-de-Paul, qui existe depuis des années et des années, moi, j'ai bénéficié de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Dans leur cas, sont venus en aide juste en 2024, là, à 40 000 personnes, c'est 3 fois plus de gens qu'en 2021.
Hey, c'est incroyable.
Le grenier de Lévis, c'est 10 000 personnes qui ont eu recours à leur service en 2024. C'est le double du bilan de 2021. Ça augmente.
T'as pas 2 fois plus de monde. T'as pas nécessairement 2 fois plus de bouffe à donner non plus. Là.
Exact. Puis dans le cas de la bouchée généreuse, ce qu'ils ont annoncé ce matin, c'est que plutôt que de charger 1 $ pour le sac, ça va être maintenant 2 $. Mais on donne beaucoup de stock, toi, dit en passant. Tu l'as vu. Il y a des gros comptoirs viande, là, puis on donne de la viande aux gens. On remplit les sacs, puis une fois que tu pars avec ton petit bonheur, tu as un sac, ben, ça te coûte une pièce. Là, maintenant, ça va être au coût de 2 $. Mais est-ce qu'un jour, nos gouvernements vont penser à ces gens-là? T'sais, j'avais cette réflexion-là. Hier, j'étais avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Puis
hier soir, ça?
Oui, ouais,
très intéressant en passant.
Puis je répète toujours la même chose. T'sais. C'est humiliant pour un couple qui travaille temps plein 40 heures, qui travaille fort, qui a deux enfants, de ne pas être capable d'arriver à la fin de la semaine, de ne pas être capable d'arriver à la fin
du
mois.
C'est anormal. Tu contribues, tu payes toutes tes taxes, impôts, puis t'es là, puis t'es pas considéré dans une catégorie appauvrie comme habituellement.
Il y a pas personne dans cette catégorie-là qui essaie de fourrer le système non plus.
Non,
là. C'est pas ça.
Il arrive
pas.
Problème.
Manque d'argent.
sont pas tout augmenté autour d'eux. Hey. Puis là, ils écoutent le bulletin à 18h, ou bien ils écoutent Marceau, Gravel, puis Reg à Boulevard. Puis là, ils disent, tabarouette, OK, on perd de l'argent là. Je veux dire, c'est des électeurs pauvres puis de la classe moyenne qui deviennent de plus en plus pauvres, puis c'est frustrant. Puis à un moment donné, tout ça, ça va péter. Là.
Et l'argent serait disponible, mais on engloutit des sommes faramineuses dans des conneries comme la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis permets-moi de faire du millage sur l'image que ton invité a utilisée hier soir. Ça m'a fessé. Tu sais, des fois, on perd la notion des chiffres. Là. On a inventé un vaccin international pendant la pandémie, ça a coûté moins cher que d'essayer de bâtir une plateforme pour la SAQ qui marche même pas. J'en revenais pas.
On va remettre les choses en perspective. Là, je vous ai mis ça hier, d'ailleurs, sur mon Facebook. Là. ChatGPT.
Oui.
ChatGPT, maintenant, ça fait partie de nos vies là, à la grandeur de la planète. C'est de l'intelligence artificielle. On a commencé à travailler sur ChatGPT en 2016, puis on l'a mis au monde en 2022. Combien ça a coûté créer ChatGPT, quelque chose qui change notre vie au quotidien?
L'impression qu'on va rire et pleurer à la fois quand tu vas nous donner le montant.
Ça a coûté 100 millions. Les iPhones.
Initialement, là.
Les iPhones, là, la première génération, là, on a travaillé de 2005 jusqu'à 2007 sur les iPhones. Donc, deux ans et demi. Combien ça a coûté?
Combien?
150 millions. Le REM. Le REM à Montréal.
Oui.
On a travaillé dessus pendant 6 ans. Il n'est pas encore fini. C'est 2026. On a dépensé combien? 300 millions.
Tabarnouche, comment ils ont fait? Écoute, il faut étudier ça dans les cours universitaires.
SpaceX. Ça, c'est l'entreprise du méchant qui envoie les gens dans l'espace constamment.
Ouais. Hein. Ça coûtait moins cher envoyer Katy Perry faire 5 minutes dans l'espace, tu vas me dire.
SpaceX, tu sais, ils gardent les gens en sécurité en haut, puis après ça, ils les ramènent. Puis, tu sais, ils font des tests aussi au travers de ça pour décollage, atterrissage, à savoir si on va tuer des gens, si on continue d'y aller avec cette fusée-là. SpaceX, ça a pris 4 ans, entre 2011 et 2015 à bâtir. Ça a coûté 1 milliard. Puis je reviens à ton Pfizer BioNTech. Là.
Oui, oui, oui.
Le premier vaccin de la COVID-19 qui était supposé sortir la Terre des problématiques qu'on avait avec la COVID-19. Faire ça, ça a coûté 1 milliard.
C'est...
Ça clique. Depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. Année de fin 2027, probablement que ce sera plus tard que ça, on a englouti 1,1 milliard de dollars.
And counting! Incroyable. Incroyable.
Fait que le couple que je te parle, là, qui travaille 40 heures par semaine, puis ont deux enfants, puis qui écoute Boulevard, puis écoute la Radio-Canada le soir quand ils arrivent à la maison, ou bien TVA, eux autres, ils entendent ça, là, sont flabbergastés.
Écoute, cet argent-là existe, on l'engloutit dans des conneries, dans des systèmes qu'on n'est même pas capable de faire marcher, alors que les problèmes sont au quotidien. Les problèmes, c'est des gens qui n'arrivent pas en travaillant fort et en faisant leur gros maudit possible. Tu sais, puis c'est encore plus choquant de voir que c'est un gouvernement qui n'a aucune perspective, puis aucune planification, puis aucune prévoyance. On continue de faire les choses comme on les a tout le temps faites, d'engloutir des sommes faramineuses dans des systèmes qui sont incapables de nous donner du rendement, que ce soit la santé, les transports, l'éducation, que ce soit le volet Société d'assurance automobile du Québec. on devrait être en grande réforme présentement, justement pour aider les plus démunis qui sont de plus en plus nombreux. Ouais. Combien de fois, puis je vais lui donner le point, combien de fois le maire Marchand a dit « faut que Québec s'implique pour sortir le monde de la rue, ça prend de l'argent, ça prend de l'aide, c'est un problème provincial ». Ça semble pas être une grosse priorité au moment où on se parle.
Mais il y a eu un déclic mental, puis hier, je l'ai eu un peu d'en face. J'ai commencé à relire le livre que Dominique Gobeil a écrit. Dans le fond, c'est un stratège qui était au PQ dans le temps. Puis lui a repris toutes les dates, les mois de ce qui se passait en arrière de la politique qui était présentée aux électeurs, par exemple. Okay? Puis on parle directement du déficit, puis d'à quel point on veut pas le dépasser, puis qu'il faut faire en sorte que l'économie soit gérée pour que on n'en ajoute pas dans le prochain mandat du PQ. À ce moment-là, c'était Pauline Marois qui venait de se faire élire. Là. Et c'est dans les premières lignes. C'est comme si c'était écrit noir sur blanc comme priorité du « le déficit ne doit pas être engrossé par des essais ».
Ils font pareil.
Mais c'est fascinant de se dire qu'au moins on y pensait. Puis là, mentalement, peu importe le parti confondu, peu importe le palier gouvernemental même, c'est plus dans notre mentalité.
Moi, je me souviens juste que la CAQ, qui avait jamais été un gouvernement, faisait son message puis gagnait des appuis en disant « Quand on va arriver, on va faire un Christy de ménage dans le shop. » Ça a été les pires!
François Legault criait parce qu'il y avait eu une erreur de calcul dans la facturation d'Hydro-Québec, puis on avait plus d'un milliard de dollars de surfacturation qu'on avait chargé aux Québécois. François Legault criait en disant aux libéraux « Vous allez redonner cet argent-là aux citoyens! » Puis à partir du moment où il a pris le pouvoir, il ne voulait plus le faire. Puis finalement, il a accepté de prendre la moitié de ça puis nous le redonner. T'as-tu juste cet argent-là, toi?
Non!
OK. Puis il a pris le reste, puis il l'a placé. Mais ce sont des profiteurs de système. Puis dans la commission Galant qu'on a actuellement, là, on se rend compte que c'est un système de crosse qui est implanté depuis des décennies.
Tout le monde est complice.
Des décennies au Québec. Tout le monde est complice.
Tous les gouvernements sont coupables, d'ailleurs.
Personne parle. Tous les gouvernements sont coupables. Puis t'as tout le temps les mêmes profiteurs de système qui passent à la caisse. Puis vous les verrez jamais avec les chaînes aux pieds. Vous les verrez jamais avec les chaînes aux pieds. Éric Kerr, on l'a-tu vu à la commission Galant?
Pas encore, hein?
J'espère que ça ne sera pas un Jean Charest de la
commission Charbonneau. Jean Charest?
Pense pas.
Ils se sortent de tout. Ils sont intouchables.
Puis hier, on parlait du fonds vert ensemble. Hier ou avant-hier, Yann, c'est un autre bon exemple. C'est un système de racket où toi, on te taxe au nom de la vertu et de l'environnement. Puis l'argent qu'on ramasse, on la donne à des entreprises milliardaires qui n'en ont pas besoin. Des brasseux de bière. Oui. J'ai rien contre les brasseux de bière. Mais s'ils veulent enverdir leurs usines, ils n'ont pas besoin d'une scène de plus que la bière à 16$ qu'on va chercher à l'aréna qui leur appartient.
Je t'avouerai que j'ai eu une petite hésitation à parler de Molson parce qu'ils font ma course. Mais effectivement, Yannick, ils ont bénéficié de millions de dollars d'argent des Québécois pour continuer à faire leurs affaires.
Au Chaloux, ta course, t'as payé pas cher, mais quand tu t'en vas dans l'enceinte voir leur équipe, t'as payé pas pire, hein, ta course?
Oui, il y a une auditrice qui nous écrit, un auditeur ou une auditrice, elle dit « Salut, j'ai dû quitter mon emploi. Ouais. Je gagnais 60 000 $ par année parce que, et mon enfant est autiste et ne peut pas prendre l'autobus seul.
Eh mon Dieu.
Et la commission scolaire n'avait plus de place pour que mon enfant puisse prendre l'autobus. Malheureusement, mon employeur n'a pas voulu ajuster mes heures. On vit maintenant de paye en paye. On a dû réhypothéquer notre maison. Je capote ma vie actuellement. C'est un stress constant. »
Je vous envoie plein d'amour. Ça doit vraiment pas être une situation facile. Puis avec des enfants qui ont des particularités comme ça, ça rajoute de l'angoisse, ça rajoute du stress. Lâchez pas.
T'as-tu peur des fois de devenir comme certaines personnes qui sont plus capables de voir ce qui se passe autour d'eux? Puis je vais être vraiment méchant, mais Jonathan Julien fait partie de ce genre de personnes-là qui est entouré de gens de la haute société, ce qui fait en sorte que tu y parles du centre-ville de Québec, tu y parles de l'itinérance. Ça s'est fait là, un mois, deux mois, on en avait parlé dans le Pit Stop, puis il n'y a aucun problème au centre-ville de Québec.
J'appelle ça perdre son humanité.
Mais on
à quel moment vous avez décroché du gars?
Pour Jonathan Julien?
Est-ce que vous avez déjà pas pensé ça de lui lors de son parcours politique?
Quand il était conseiller à la Ville de Québec, il semblait quand même humain jusqu'à temps qu'il démissionne où il parlait de lui à la troisième personne. Mais
ah oui, mon Dieu,
t'as-tu peur des fois de devenir comme ces gens-là, de plus voir la misère autour de toi? On pourrait plus faire de radio. Ça serait impossible.
Écoute, je te mentirais pas en te disant, je pense, moi je l'ai été pendant une couple d'années. Tu sais, t'es jeune, t'as un bon salaire, tes affaires vont bien, puis tu te dis, si moi mes affaires vont bien, tout le monde, leurs affaires, ça peut bien aller aussi s'ils travaillent fort, puis ainsi de suite. J'avais la tête un peu dans le cul puis dans le nombril, les deux à la fois. Puis à un moment donné, c'est parce qu'à force de vivre dans un endroit où il y a de la misère, il y a des problèmes, à force de vivre, point, parce que toi aussi, à un moment donné, tu vas avoir tes stress, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des affaires qui vireront pas comme tu pensais que ça allait virer, ou comme tu pensais que tu méritais que ça vire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
On pense toujours que la vie est juste.
Oui, oui. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas le cas.
C'est une salope.
Et oui, puis là, tu te ramasses avec le manche du râteau en pleine tronche. Puis moi, ça a été un eye-opener. Et la misère que je voyais moins, je la vois beaucoup plus, je la file beaucoup plus. J'essaie de la voir de plus en plus aussi. C'est pas pour rien qu'à tous les jours, j'essaye de marcher dans des secteurs de Québec puis de voir un peu ce qui se passe autour. Puis je vais avoir la prétention de dire qu'à 47 ans, j'ai plus d'empathie que j'en ai jamais eu.
Ça aurait été triste le contraire, mais ça arrive.
Il y a eu beaucoup d'activités aussi qu'on a faites, entre autres avec la NSP puis ton combat, Yann, qui me font prendre conscience que, oui, la misère est partout autour de nous puis qu'on a toutes des boutrophes puis qu'il faut faire notre part aussi quand on a la chance soit de s'en sortir ou de ne pas être dedans. Mais il n'y a rien de plus crissant que des politiciens qui, au nom de leur politique ou de leur image de marque ou de commerce, qui vont nier des évidences que tout le monde voit.
Faire de l'aveuglement volontaire.
Tout va bien.
L'épicerie à 75$ pour 4 personnes de Philippe Couillard.
Il y a des gens qui ont des salaires et qui ont des jobs qui s'en vont faire la file pour avoir des paniers à 1$. C'est pas supposé fonctionner comme ça.
Non,
au Québec.
On parle pas de crosseur.
Non, non, tu sais, exact.
J'avais dit cette discussion-là avec quelqu'un la semaine passée, puis je me suis un peu choqué après cette personne-là. Puis là, ça va l'air un peu trash, mais en même temps, j'essaie d'être le plus doux possible en nombre. On va peut-être revenir un peu trash les prochaines semaines. Mais le gars me disait, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est « Hey, dans la vie, là, tu fais ta chance. » Puis on parlait justement de l'itinérance dans la ville de Québec. Puis il me dit « Dans la vie, tu fais ta chance. » Puis ces gens-là, du jour au lendemain, peuvent changer de vie. Je dis « Ouais, mais attends un peu. » C'est parce que ces gens-là ont un passé. Ils ont peut-être pas eu l'entourage idéal autour d'eux qui ont fait en sorte qu'ils se sont développés à leur plein potentiel. Puis cette personne-là ne voulait pas comprendre. Puis là, j'ai pris un exemple que j'avais entendu il y a tout ça à peu près une vingtaine d'années. C'était un gars dans la rue qui disait que son père l'avait enculé. Puis le gars, il était intoxiqué par la drogue, par l'alcool. Je le sais pas. C'est un sans-abri. Puis il y a la bonne femme, il chantait des astuces de bêtises en disant « Approche-toi pas de moi, tu pues. » Puis il dit « Moi, je me suis fait enculer par mon père. » C'est raide, esti.
C'est...
On a tous eu, pour la plupart, la chance d'avoir des gens qui étaient aimants autour de nous autres, mais est-ce qu'on sait ce que ça peut être quand t'as des gens qui sont des salauds autour de toi, qui profitent de toi, de ta jeunesse, du fait que t'es petit pis t'es incapable de te défendre? Puis quand j'ai discuté de ça avec cette personne-là, il y a deux semaines, on dirait qu'il a quand même compris, ah, c'est vrai, c'est moi, mon père m'a pas enculé, fait que j'avais comme...
Je suis parti avec une chance de plus dans la vie.
Un peu.
Ouais. Mais les gens qui ont ce discours-là, que moi, j'ai déjà eu, puis qui ont la chance de vieillir en continuant d'entretenir ce discours-là, soyez conscients de votre chance. Soyez conscients de votre privilège.
Au minimum.
Parce que ça veut dire que vous avez été chanceux, parce que c'est pas vrai que la vie, c'est juste. Puis il y a quelque chose de fondamentalement vrai à dire, on est tous à une ou deux mauvaises décisions ou à une ou deux bad luck de se ramasser dans le trouble d'une façon ou d'une autre. Puis il faut comprendre ça, puis il faut en avoir de la compassion puis de l'empathie pour ça aussi, parce que c'est de plus en plus une réalité. Tu sais, tu peux pas avoir un nombre qui double et qui triple de gens dans le besoin puis dire que c'est tous des gens qui le méritent. Voyons donc, ça fait pas de sens. C'est quasiment la moitié de la population là, qui arrive pas.
Ce qui me fascine, c'est que ça s'était déjà... Ça avait déjà commencé à s'inscrire... Je vais reculer, mettons, en 2017 ou en 2018, avant même la pandémie, parce que j'avais fait un tour à l'Aubrivière, puis j'avais posé la question aussi disgracieuse soit-elle, avec le micro en dessous du nez, de puis Éric Boulay était là en passant, là, je suis pas arrivée comme une rate, là. Puis j'avais dit, pourquoi vous êtes ici? C'est quoi votre parcours? Mm-hmm. Puis dans la majorité des parcours, il y en a qui disaient consommation, perdu. Mm-hmm. Dans la majorité, c'était cancer, donc assurance qui couvrait, mais peut-être à retard, puis quand tu vis sur une paye, puis tout ça, donc maladie, pas d'entourage, personne qui t'aide, puis il faut que tu ailles à tes traitements, puis tu peux pas travailler dans ta condition. Séparation. Mm-hmm. La séparation arrivait très, 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 très vite. Des gens qui disaient, hey, je me suis mal assurée après pour mon incendie, je regrette de façon impossible à expliquer, mais je suis rendue dans la rue à cause de ça.
On est tous à une dit, ou deux bad luck.
C'était pas compliqué. Ça. Il y avait de la conso. Ouais. Il y en a peut-être qui m'ont menti, mais le discours était loin d'être celui qui est stéréotypé. Mm-hmm. Puis ça commençait déjà.
Mais ouais. Les politiques doivent faire quelque chose, que ce soit par le fédéral, par le provincial, par le municipal. Les gens ont faim. Puis la bouchée généreuse qui a dû doubler son offre en 6 mois, je veux dire, pour eux autres, c'est une pression supplémentaire. Il y a 2 fois plus de gens qui viennent les voir, qui ont besoin de nourriture. Là. Puis oui, quelqu'un qui m'écrivait tantôt, « Ouais, mais Yann, il y a eu beaucoup d'immigration à Québec. Ils ont besoin de ces systèmes-là pour réussir à manger. » Oui, mais il faut les nourrir pareil.
Mm-hmm.
Même s'il y a de l'immigration, c'est pas moi qui a choisi de les faire venir ici. C'est le gouvernement. Puis à partir du moment où le gouvernement les fait venir ici, ben, il doit s'en occuper puis les intégrer dans notre communauté puis qu'on leur trouve des jobs.
T'sais. Il est où le plan? T'sais, le plan de dire, je sais pas moi, en 2 étapes, on va travailler à simplifier la vie du contribuable qui a les épaules de plus en plus frêles puis qui a un poids de plus en plus lourd à porter. Puis on va canaliser l'argent qu'on ramasse puis on va la donner aux gens qui en ont besoin. Puis c'est pas de devenir Québec solidaire du jour au lendemain. On peut être solidaire sans être Québec solidaire. Puis je pense qu'on a besoin de tout ça présentement. Simplifier la vie du contribuable, comment? Scraper les modèles qui ne marchent pas. Simplifier le système d'éducation. Simplifier le système de santé. Scraper la société de l'assurance automobile. Puis après ça, ben, l'argent qu'on ramasse, ben, s'organiser pour qu'elle n'aille pas dans les mains de brasseurs de bière multimilliardaires, mais peut-être qu'elle aide directement aux gens qui en ont besoin, puis qu'on arrête de berner les contribuables pour enrichir les gens qui en ont déjà trop, tu sais.
Exact. Hey, il reste encore quelques minutes, Denis, je veux parler de ça avec toi et Pascal. Est-ce que le mouvement syndical commence à perdre de la vitesse au Québec? Parce que fut un temps où tous les domaines de la construction, là, que ce soit du résidentiel, du commercial, ces gars-là, quand il y avait une grève, fallait que tu la respectes. Mm-hmm. Si tu la respectais pas, même si tu avais le droit de le faire puis de travailler, exemple, dans le résidentiel, parce qu'il y a eux autres qui ont une loi à part, ben les gars des... comment ils s'appellent, ceux-là qui étaient sur la Côte-Nord, les gros bâti, là.
C'était Rambo.
Rambo Gauthier. Rambo Gauthier. Ben, les gars comme Rambo Gauthier allaient visiter ton chantier, puis là, ils te faisaient de l'intimidation, comme quoi tu devais déposer tes outils, mettre ça dans ton coffre, puis t'en aller chez vous, parce qu'on était en moyen de pression. Le Journal de Québec, qui a fait un tour dans certains chantiers de construction résidentielle, puis qui ont rencontré des jeunes qui refusent de quitter la job.
Pas surpris.
Ils ont le droit de le faire, mais les jeunes refusent de quitter la job. Puis ils ont chacun leur raison. Il y en a que c'est des raisons humanitaires. C'est-à-dire, moi, j'ai promis aux résidents de cette maison-là qu'ils allaient pouvoir rentrer là le 1er juillet. Je les laisserai pas dans la merde.
C'est légitime, là. Bravo.
Je te salue. D'autres, un jeune que j'ai perdu le nom, il disait, écoute, moi, là, ça fait 5 mois que je travaille dans la construction, j'ai des dettes, j'ai pas les moyens de perdre un 100$, 200$, 300$. En plus que, une fois fini, puis lorsque ce sera accepté, ça va me donner à peu près 20$ par semaine. Faut que je continue à travailler. Est-ce qu'il y a une perte de vitesse au
si
niveau du
syndicat? Si je peux permettre, là, la corrélation...
Permettez-vous.
...est directe entre l'autre sujet qu'on vient de faire, puis celui-ci. Post-Canada, les postiers, les facteurs. La dernière grève, là, il y en a beaucoup qui ont saigné, qui ont une famille à nourrir.
Ben oui.
Puis tu es à 50$ des fois par semaine pour avoir un petit quelque chose parce que tu as fait la grève et tout ça, puis ça s'est extensionné. Même chose pour les enseignants. Donc, ils sont entre l'arbre et l'écorce, des fois, entre vouloir qu'on signe une convention collective puis que ça avance puis que ça se termine en 3 jours versus... le coût de la vie qui a tellement augmenté, les pépins de tout le monde, la paie en paie, puis les grèves qui s'extensionnent sur plusieurs semaines et que les syndicats, eux autres, ils ont leur chèque de paie chaque semaine, puis ils l'extensionnent, puis eux saignent.
Puis c'est quoi le respect que tu peux avoir pour ton exécutif syndical quand ils prennent tes cotisations pour partir sa brosse le midi au Steak Avenue avec le contre-filet à 63$ puis la gaveline 16 ans à 82$ la shot? C'est sûr que t'as pas le goût de les écouter quand toi, tu te dois le cul puis que t'arrives pas pas. C'est quoi le respect que tu peux avoir pour ton exécutif syndical qui s'enrichit, qui s'en va dans des conventions à fucking Dubaï? Il sac-tu de toi puis ton argent, tu penses? Tu sais, l'exécutif syndical, c'est le gouvernement, c'est le même racket, c'est le même abus. Évidemment qu'il y a des gens qui décident de faire bande à part puis dire, moi, je vais travailler pour ma poche puis fuck leur poche à eux autres. Puis je comprends ça, absolument.
Ouais, puis là, tu sais, on n'est pas si loin d'une entente. Là, il y a à peu près 6% de 6 piastres de différence entre ce qu'on leur offre puis ce qu'ils voudraient. Eux, ils voudraient 24 piastres. Là, ils sont à 18. Ça fait que ça devrait finir vers 22, comme les autres au commercial, à peu près. Là.
Mm-hmm.
22 piastres. Ça fait que ça, ça a du bon sens. Mais là, actuellement, ce que je vois, c'est que les jeunes désertent pas les chantiers. Puis ça m'impressionne. Je les salue.
C'est noble, particulièrement. Tu sais, je comprends les gens qui arrivent pas, puis tout ça. Mais ceux qui le font en disant, moi, je laisserai pas un gars dans marde qui va mettre un autre gars dans marde parce que sa maison est supposée d'être prête. Tabarnouche, il y a encore du bon monde sur cette planète-là. T'es obligé de le dire. Une chance, d'ailleurs.
Tiens, on a encore du temps pour ce sujet-là. C'est rare que je parle de ce type de sujet-là, mais connaissais-tu le concept de Attends, je vais être capable de le dire. La pluriparentalité.
Ah non, c'est tough, ce sujet-là, Yannick.
C'est le bienfait d'avoir plus que deux parents, c'est ça?
Ouais. Avoue que tu t'es levé ce matin en disant j'ai tellement hâte de parler de ça. Là.
Non, mais on a parlé cette semaine avec,
ouais.
avec
oui,
les
y avait
filles.
Déjà
on a parlé
article.
Ensemble aussi.
C'est important d'en parler. Puis en plus, j'ai appris quelque chose. Fait que peut-être que j'aurai finalement ma retraite tant espérée. Mais Québec qui veut pas que les enfants aient trois parents. Le gouvernement Legault qui va s'adresser à la Cour d'appel pour contester un jugement qui lui ordonne de reconnaître la pluriparentalité, c'est-à-dire qu'un enfant est plus que deux parents. Bon, il y a des modèles à 3 pour ce qui est des couples, il y a des modèles à 4, il y a des modèles à 5, il y a des modèles à 6. Bien, il y a des lois qui entourent ça. Là.
Mm-hmm.
Supposons qu'il y a séparation, puis il y a 4 parents. Là.
Ouais.
Mettons que les 4 parents sont pas capables de se parler. C'est quoi, l'enfant fait une semaine? Les pensions alimentaires, comment ça fonctionne, les amis?
Écoute, moi...
Quand j'étais à Montréal, je suis à Montréal, moi, 4 parents, je suis pour ça. C'est bien facile. Mais une fois que ça se sépare, le bien-être de l'enfant, tu t'en occupes-tu, tu sais?
Moi, le problème que j'ai avec cette approche-là, c'est que tout ce qui est obligation religieuse m'agresse beaucoup. On sait qu'il y a des religions qui dirigent plus que d'autres.
Mm-hmm.
On est de descendance catholique. On en avait une qui n'était pas pire aussi là, pour laisser une femme enceinte mourir dans le temps, là, après son 13e enfant parce qu'on l'a obligé de continuer d'être enceinte tout le temps. On n'a pas de leçon à donner aux autres. On n'est pas tous rendus à la même place ou whatever. Mais moi, une religion où une femme se sent obligée de faire partie d'un harem de 6, c'est pas quelqu'un qui fait un choix éclairé sur qu'est-ce que je vais vivre comme vie.
Est-ce qu'elle aurait l'éclaircissement pour le faire aussi?
J'ai une question, c'est quel pays qui accepte ça?
mais c'est triste aussi, si t'es né là-dedans,
oui,
t'es endoctriné.
Mais je veux faire la distinction entre ça et trois personnes qui décident, les trois de leur plein gré, d'élever un enfant, puis ça, c'est pas de mes affaires. Ça marche, vous êtes trois parents aimants, cet enfant-là, j'ai pas de stress pour.
Mais faut modifier la loi, par exemple.
On la modifiera.
Fait que l'enfant, il va chaque semaine, quand il y a séparation des trois, là, il va une semaine chez parent 1, parent 2, parent 3.
Moi, à partir du moment où c'est fait dans l'amour, il y a plein de couples à deux qui s'entendent pas. Il y a plein de parents uniques qui s'impliquent pas. Si t'as trois parents qui veulent se déclarer parents puis s'occuper de cet enfant-là, ben ta boire, ils vont s'arranger.
Parce que c'est la seule chose qui reste, la boîte de coton d'amour puis tout ça.
Il y a une dame qui sort un livre cet automne parce qu'elle est la fille d'un couple à trois, un trouple qu'on appelle, Freddie Mercury, puis deux personnes qui sont dans l'anonymat qu'on connaît pas, qui auraient formé un couple à trois avec Freddie Mercury, et lui a toujours été impliqué dans... l'éducation de la fille. Il y avait leurs règles, il y avait leur système. Elle vivait avec les deux autres, puis Freddie Mercury, il venait une fois de temps en temps. Il lui a légué ses journaux intimes, puis c'est pour ça qu'elle a décidé, elle est maintenant, je pense, dans la quarantaine ou la cinquantaine, a décidé de raconter son histoire d'un livre. À prime abord, il n'y a personne qui la croyait, mais quand elle arrive avec les photos, les preuves, les journaux intimes, puis ainsi de suite, son histoire, elle tient la route. Les gens... Quand c'est les bons sentiments qui les animent, je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin d'attendre après le gouvernement pour avoir des lois. Par contre, une religion qui veut diriger et qui veut se donner une légitimité, eux autres, ça peut leur servir que le gouvernement ouvre cette porte-là. Et moi, mon malaise est là. Si c'est fait en consentement et en amour, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est fait parce que ton Dieu te dit qu'il faut que tu fasses partie d'un harem de 3 femmes pour un gars, là, j'ai de la misère en sacrifice qu'on devienne complice de ça.
Je comprends le lien avec la religion. C'est juste que moi, d'un autre côté, je me dis, tabarouette, mettons, ils sont 4-5 pour élever un enfant. Je comprends votre principe. Oui, mais c'est 4-5 personnes qui les... Je comprends. Mais une fois que ces gens-là s'entendent plus, l'enfant fait quoi? Tu sais, moi, c'est à cet enfant-là que je pense. Puis j'ai appris quelque chose aujourd'hui, puis je ne sais pas si tu es au courant de ça. On dit que les enfants aussi ont des obligations envers leurs parents.
Hey, j'ai vu ce que tu as envoyé. Je ne savais pas ça. Là. Je trouve ça un peu fou.
Simon Jolin-Barrette souligne que les parents ont le droit de choisir quelles personnes seront significatives dans la vie de leur progéniture, mais c'est le rôle du gouvernement de protéger l'intérêt de l'enfant et de ses liens de filiation. Si on est dans la logique du jugement, il n'y a pas de limite. Ça peut être 4, 5, 6, 7, 8 parents qui auraient des droits reconnus sur les enfants. Donc, on se retrouve dans une situation où, en cas de conflit, en cas de séparation, ça pourrait ne pas être nécessairement dans l'intérêt de l'enfant qui ne choisit pas cette situation-là. Et ce que j'ai appris, parce que là, il m'apprend quelque chose, là, il me dit que les enfants ont des responsabilités envers les parents. Moi, ça, je ne savais pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant pourrait...
Plusieurs croient que la pension alimentaire est uniquement réservée aux enfants et aux conjoints mariés ou unis civilement. C'est faux. Le Code civil du Québec prévoit que l'obligation alimentaire existe de façon réciproque, à la fois du parent envers l'enfant,